Vous fournissez le bord de mer, je fournis le béton. On promote à tout va dans le bout du jour. Moitié hacienda, moitié clavier.
On fourgue avant que ça se lézarde.
Et on fait la culbute. Et on attaque l'Afrique, car c'est ça l'avenir, monsieur. L'Afrique, 20 000 km de plage.
Pour les pousseurs de filets à crevettes, quelle promenade. Mais y avez-vous songé?
Oh là là.
CO2, mon amour.
Nous serons les pionniers des grandes transhumances. Tous les prolos en charter le vendredi soir. Retour le lundi matin quai de Javel ou au Creusot, avec des souvenirs de pêcheurs de requins. Le cri des cormorants le soir sur les joncs.
Avec Denis Chessou.
Croix, croix, croix.
Sans vouloir vous contrarier, ça c'est plutôt le cri du perroquet bleu du Mato Grosso.
Sur France Inter.
Le cri du cormoran, c'est...
Croix, 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 croix.
Eh ben, il y a 50 ans, il y avait déjà presque tout dans ce film. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir. CO2, mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Oui, on va parler de la mer. Avec aujourd'hui Gilles Gaillard à la technique, Camille Blanès est toujours bien sûr avec nous et Xavier Pessugia réalise l'émission. Avec une petite humeur maritime, justement. Ne pleure pas, madame la mer, calme-toi. D'ailleurs, on ne verrait même pas couler tes larmes salées dans l'eau. Tu viens d'avoir un sommet qui t'était consacré à Brest. One Ocean Summit. Un océan du 1 océan. Donc, voilà. D'accord. Il y avait un peu de blue washing, comme au temps de la mère Denis qui polluait sans savoir. Alors oui, je sais, une référence pareille, ça trahit mon âge. Mais il y a longtemps que les eaux du lavoir ne sont plus très propres et que les goélands hurlent leur douleur dans les golfes pas très clairs en combattant les nictamères. Le président veut porter à 33% les aires marines protégées dans les eaux territoriales françaises. Joli chiffre, on signe tout de suite. Mais 4% ont une protection forte, c'est tout. Quels moyens mettre dans nos terres australes antarctiques rugissantes d'albatros? Alors dans les autres 29%, moi je le sais, et oui, à chaque vague, on avale mes poissons, on me repeint d'algues vertes. La France est championne d'Europe du massacre des dauphins communs. On me surpêche, très loin de la pêche artisanale, côtière, qui elle est bien faite. Ah, c'est tabou la surpêche, et oui, ce métier est dur et notre pays continue à la subventionner. Mes hautes mers sont toujours un far west, des zones de non-droit plus ou moins plastifiées. Alors peut-on réellement concilier croissance économique et protection des océans? Oui, investir dans le bleu, partenariat public-privé au service des océans. Oui, l'industrie marine est pour des mers durables. Oui, à une économie du tourisme qui protège l'eau. La liste des nictamères est longue et les projets sont nombreux. On va capter mes vents. On va vous vendre des watts pour faire chauffer vos smartphones agités. On va glisser le CO2 sous ma robe, me faire péter la sous-ventrière, mon écorce pour se goinfrer de métaux plus ou moins rares. Ah bah oui, j'ai bonne mine. Bien sûr, on veut me protéger. Et moi qui suis le réceptacle ultime de votre hubris, de votre économie de casino, j'ai quand même un léger doute. Même si plein d'actions positives sont là. Alors l'heure est grave, il faut agir. Un sommet tonnerre de Brest avec des experts, scientifiques, associations, élus, industriels, financiers. On propose des solutions, recommandations et on secoue le cocotier des quelques chefs d'État qui ont bien voulu se déplacer entre deux négociations de contrats d'armement. Mais derrière les impersonnels façades vitrées des tours du grand négoce universel, eh ben les appétits sont féroces et gargantuesques. Exploitation minière des grands fonds, aquaculture intensive, ah bah oui, le sushi frais ça n'attend pas, pêche industrielle, approchez, il y a les richesses qu'on peut tirer des océans avant liquidation des stocks et fermeture des rayons. Ne pleure pas, madame la mer. Ah tiens, souviens-toi, sur la Lune, la mer de la tranquillité a accueilli une nuit de juillet 1969 le pas d'un homme de bonne volonté. Les océans, les mers aspirent aussi à la tranquillité. Juste, à moins d'agitation pour pouvoir respirer et donc nous faire respirer. Notre dieu latin des mers observait ce grouillement humain et se disait « Non, je n'ai pas tellement envie de faire rimer la thune avec Neptune. » Et pour faire suite à ces quelques lignes, bah des embruns, mais oui, encore, avec des paroles fortes et remplies de beauté, celle de l'océanographe François Sarano, puis on fera un petit tour du côté aussi de l'Aquarium Tropical de Paris. On vous parlera des algues marines. Voilà, allez, bonne mer, c'est parti.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Trata, trita, treta, tem moamba. Mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça. Maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba não dá, sem samba. Essa bandeja pagou pra tem baquechu do Bruno, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Tezê da Coronel. Tem Irã e Maju, Simone, Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, no Pelourinho, pode dar, no Pelourinho, pode dar, no Pelourinho, pode dar. Olho pro Cristo ali no Corcovado.
Gaetano Veloso, je vais pas vous prononcer le titre parce que là je vais me planter merveilleusement. Eh oui, je pratique pas le portugais, mais il y a de la samba. Oui, de toute façon, il y a de la samba. Alors, je vous avais promis de la mer, en voilà. On va commencer par Requin et Cachalot avec François Sarano.
Quand je suis sur la nageoire d'un grand requin blanc. Un grand requin blanc, les dents de la mer, là, hein. 5,50 m, 1,5 tonnes, et qu'il m'a accepté. Je suis dans une... en paix, en sérénité. C'est un moment bouleversant. J'ai envie que tous les gens que j'aime, mon épouse Véronique, mes filles, Marion, Maud, ma petite fille, tout le monde soit avec moi, vous aussi, Denis, avec moi et le monde entier. Ces rencontres-là sont tellement bienheureuses qu'on aime le monde entier. Ça ouvre sur le monde de la vie sauvage.
Dans une forêt magique, nous avons fait du stop et un aigle pêcheur nous a pris. Il va nous déposer avec François Sarano face à la Mare Nostrum, au pays des cachalots, des baleines, des requins et du sel qui coule de nos larmes. Alors François Sarano est un plongeur professionnel hein, et il a été pendant 13 ans chez Cousteau, cofondateur de l'association Longitude 181. On peut dire qu'il est né lui aussi avec des branchies et la parole haute et enthousiasmante. Car même s'il sait très bien les dangers qui nous menacent, bah, il ne se rangera jamais du côté de la catastrophe, des chaos, et pourtant il est très au clair avec ça. Avancer, tracer sur une route même étroite, au cœur des périls, et tenter un récit un peu de joie en glorifiant la nature sauvage dont nous faisons partie, bah, c'est ce que l'on vous offre aujourd'hui avec François Sarano, donc, qui vient d'écrire aussi Au nom des requins. C'est parti de la forêt jusqu'à la mer avec François Sarano.
Avec le monde sauvage, on ne peut pas tricher. C'est ce qu'on apprend lorsqu'on plonge au contact des grands requins, des cachalots, des baleines. Si on veut les approcher, si on veut les rencontrer, il faut y aller nu, c'est-à-dire sans a priori, en essayant de se dépouiller de son référentiel propre, parce que eux perçoivent le monde différemment. Ils n'ont pas les mêmes sens que nous. Et si on veut tenter de les approcher, il faut y aller aussi avec bienveillance, avec respect. Et à ce moment-là, on peut avoir une rencontre. Et la rencontre, elle est authentique ou elle n'est pas. Et ils sont tellement éloignés de nous, ils sont tellement des aliens par rapport à nous, que si on arrive à rencontrer un animal sauvage, cela veut dire, si lui vous offre la rencontre, alors on doit pouvoir le faire avec chacun autour de nous, avec tous nos voisins qui ont des cultures, des sexualités, des traditions différentes, et que l'on ne va pas voir parce qu'on a des a priori. Il faut aller tendre la main et apprendre à recevoir et à écouter. Voilà pourquoi je dis que rencontrer un animal sauvage qui est C'est une école de vie en société.
Baleine ! Attention, elles vont sonder !
En fait, baleine, ce sont des cachalots. À gauche toutes !
Et cette vie sauvage, on se dit très souvent, y a une distance de fuite, les animaux nous fuient. En fait, c'est l'inverse.
Que les animaux nous fuient, c'est complètement artificiel. En mer, les animaux qui n'ont pas fait la relation entre l'homme destructeur, ses chaluts formidables, et le plongeur, il vous approche, il vous accepte. Si vous êtes bienveillant, si vous êtes respectueux, patient, vous allez pouvoir vous mêler au banc de poissons. Essayez de faire pareil avec les oiseaux, c'est pas possible. Vous allez pouvoir approcher des très grands prédateurs, impossible à terre. Mais en mer, je peux nager à côté d'un requin blanc. Je peux être invité par un cachalot.
Saout descend sur la plateforme d'étrave. En 20 ans de navigation, il n'a jamais eu l'occasion d'approcher des animaux de cette taille. Ils ne sont vraiment pas farouches.
C'est le cachalot qui vient. Et c'est lui qui vient m'apprivoiser. C'est lui qui vient me chercher pour jouer. Lui, l'animal sauvage. Et sauvage, ça veut dire quoi ? Libre, indompté. Et là, le mot apprivoiser prend tout son sens. Chacun trouve du bien-être, sans soumission, sans attente d'autre chose que d'être bien ensemble. Quand le cachalot vient, il attend rien de moi, ni nourriture, ni protection, bien évidemment. Non, il est curieux. Et on passe, en cabriolant l'un avec l'autre, un moment inouï, inutile, inutile et merveilleux.
Sur le littoral Apiti, dans le lagon de Mouréa, nul besoin de plonger en eau profonde pour prendre place au spectacle. Ici, chaque année, des milliers de touristes nagent au beau milieu des raies, et lorsqu'un requin surgit, l'excitation devient extrême.
J'avoue que je n'avais jamais fait ça auparavant, donc je m'étais dit, je ne sais pas comment je vais réagir quand je vais avoir un requin devant moi. Et finalement, c'est super.
L'expérience se poursuit sous l'eau, en apnée. Les requins sont impassibles, les plongeurs nagent au plus près de ces géants des mers, mais sans jamais les toucher.
Mais la normalité, c'est plutôt justement ce contact. Et d'ailleurs, je crois que c'est Albert Jacquard qui avait ce mot de rencontre qui était extrêmement fort pour lui. Donc,
Albert Jacquard, qui est un de mes maîtres, disait « Sur le fronton de toutes les écoles, on devrait écrire « Ici, on apprend l'art de la rencontre ».
Cultiver l'art de la rencontre, c'est difficile. L'autre, vous le savez bien, l'autre est quelqu'un qui n'est pas comme moi, qui par conséquent me pose problème, qui quelquefois m'inquiète, me fait peur. Eh bien, ma recommandation, c'est d'aller au-delà de cette peur et de se dire « cet autre va être ma source ».
Dans la nature, on apprend l'art de la rencontre. Pourquoi ? Parce que nous sommes de la nature. Nous sommes la nature. On est frères. Il n'y a aucune raison de mettre une barrière entre nous et les autres vivants. On est eux, on est comme eux. Mais on a une originalité incroyable par rapport à ces arbres magnifiques, par rapport à ces animaux qui ont des sens que nous n'avons pas. Nous, on a conscience de tout ça.
François Sarano, il y a aussi un thème qui vous est extrêmement cher, mais qui revient à ce que nous vient de dire. C'est la différence entre le savoir et la connaissance.
Alors, le savoir, ça parle à l'intellect. Ça s'apprend dans les livres, ça s'apprend en conférence, ça s'apprend peut-être en regardant la télé. Alors que la connaissance, c'est quelque chose qui se vit avec tous ses sens et qui se vit en relation avec l'autre. C'est une prise de risque, la connaissance. Ça n'isole pas dans une tour d'ivoire comme le savoir. Cette prise de risque, c'est celle du contact avec l'autre qui fait que on s'imprègne de la vie de l'autre, qu'on en connaît les détails. Connaître, c'est vivre avec. Et il y a des tas de gens, par exemple, moi je connais des marins qui ne savent rien sur la mer, mais qui la connaissent comme aucun océanographe ne la connaîtra jamais, parce qu'ils la vivent. Et pourquoi c'est important cette différence ? Parce que lorsqu'on sait des choses, on fait un pas en arrière et on juge ce que l'on aperçoit autour de soi. On peut l'exploiter, on est distant, hein. On peut l'exploiter, je sais ci, je sais ça, je peux même te gérer. Oh, je peux même te protéger. Mais on ne se sent pas partie du monde. Le savoir risque de renforcer ce dualisme horrible, nature, homme, culture, nature. Non, c'est impossible. Alors que quand on connaît, quand j'essaye de connaître les cachalots, je tisse des liens avec eux et qui me permettent, ces liens, de plonger au cœur de leur vie, de leur vraie vie. Et je me sens frère d'eux.
Tu veux que je te dise, toi ? Tu me plais. Comment tu t'appelles ?
Mowgli. Et il va immédiatement aller au village des hommes.
Comment au village des hommes ? Ils vont le gâcher. Ils vont faire de lui un homme.
Oh, Balou, je veux rester ici avec toi.
Ouais, tu parles que tu restes.
Oh, et de quelle façon crois-tu qu'il arrivera à survivre ?
Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que...
Ce qui est formidable, François Sarano, je connais depuis déjà pas mal de temps, mais c'est que vous n'avez aucun mal à donner un sens à votre vie, quoi. Et de voir donc ces combats, parce que c'est quand même des combats. Donc on va essayer de voir la petite bouteille, là. Je vais pas dire qu'elle est déjà à moitié pleine, mais on va dire qu'elle est peut-être un quart pleine, quoi.
Je dois dire, cher Denis, que C'est de mon amour a été longtemps quelque chose qui m'a inspiré. Et maintenant, je peux dire
gentil.
Une chose. Non, c'est très sérieux.
Je sais.
Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on a la chance d'être un prescripteur, on peut entraîner les autres dans le monde merveilleux de ce qui nous entoure. On peut éveiller, donner envie, émerveiller, réémerveiller le monde. Et ça, c'est formidable. Parce que tant que nous ne serons pas chacun émerveillés, il n'y aura aucune chance de participer à la protection de quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on n'est pas émerveillé, si on ne connaît pas, eh bien, pourquoi est-ce qu'on se soucierait de la protection ? Par conséquent, le premier pas, c'est de faire en sorte que chacun prête attention à ce qui l'entoure, à ce chêne, à ces oiseaux. Ils existent et ils existent à partir du moment où on leur prête attention. Et ça, je pense que c'est une des clés. Et je pense que nous avons tous devoir de contagion, la contagion du merveilleux. C'est-à-dire, voilà, pour ses enfants ou pour ses amis, les gens à côté, leur dire « Stop !» Le matin, dites bonjour. N'allez pas tout de suite faire quelque chose. Ouvrez la fenêtre et dites « bonjour » en pensant ce que veut dire « bonjour » et en regardant autour de vous et en faisant attention à chacune des choses. À l'oiseau, au pigeon, eh bien c'est au pigeon que vous dites « bonjour ». Et tout d'un coup, ça vous réinscrit dans le monde. Comment dire ? Le bonjour donne existence à tous les autres. Et quand on donne existence, on ouvre des relations. Et on est riche de ces relations. Et on peut les partager, ces relations. C'est merveilleux.
Comment vous vous projetez maintenant dans ce monde, je le dis très souvent, quoi, joyeusement fracassé, entre guillemets ? À la fois, on a un discours assez effondrement étayé hein, d'ailleurs par la science, et puis quand même notre animalité, notre besoin de créer, notre besoin de dire ouais, regardez comme c'est beau, et il y a quand même encore une ligne de crête sur laquelle on peut avancer.
Là je suis clair, l'effondrement ne m'intéresse pas. J'ai deux filles que j'aime par-dessus tout, j'ai une petite fille que j'aime par-dessus tout.
Mais c'est pas possible pour vous.
Non, voilà. C'est juste pas possible. Je crois vraiment.
Même s'il y a des effets de seuil que vous connaissez, parce que c'est ça les effondrements, comme c'est les suites de.
Ok. L'espérance est une volonté.
Voilà.
Et de toute façon, on sait les conditions dans lesquelles on a à œuvrer. On n'a pas le choix. Et j'ai conscience de tout ça. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas dire à ma petite fille Ayaté, ouais. Oh, tu sais, quand j'étais chez Cousteau, moi, j'ai nagé avec des baleines et des cachalots. Mais je suis désolé, je ne peux pas te les léguer. Je les ai bouffés. Je les ai bouffés. Et puis, je savais bien qu'il y avait d'autres espèces qui disparaissaient, les gorilles. Mais je le savais, mais j'ai rien fait. C'est horrible de dire ça. Je ne peux pas dire j'ai rien fait. C'est juste pas possible. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je regarde devant. Et autre chose, je ne crois pas une seule seconde à cet Éden idéalisé du passé, tout comme ça. Non, le beau, il est devant. Je crois que devant, tout est possible encore. Et le milieu marin me donne raison, parce que le milieu marin est incroyablement résilient, pour des raisons qui lui sont propres. La vie est dans l'eau, elle n'a pas besoin de chercher l'eau, donc c'est beaucoup plus facile. Et donc, des toutes petites algues peuvent tout de suite pousser. C'est beaucoup. Il n'y a pas de végétaux qui durent des centaines d'années. Tout se passe très très vite et nourrissent une chaîne alimentaire incroyablement complexe. Et la plupart des animaux marins, surtout, ont une reproduction, une fécondité extrêmement importante, avec des œufs, des larves, qui font que la mer est plus résiliente. Et cette résilience, elle nous donne un espoir fou. Parce qu'on voit que dès qu'on prend des bonnes mesures, une réserve marine dans laquelle on tolère tout le monde, mais pas de prélèvement,
et
la vie revient formidable, et on peut côtoyer les poissons, et on est heureux, et tout le monde peut en profiter, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un scaphandre autonome pour aller plonger profond. C'est dans 50 cm d'eau, c'est là, à portée de main, et les enfants sont heureux de découvrir ça. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle de nos larmes salées. Nos larmes sont salées, à 9 pour 1000, hein, parce que lorsque la première cellule s'est refermée dans l'océan originel, il était salé à 9 pour 1000. Et aujourd'hui encore, nous avons les traces, nous gardons la trace de nos origines océaniques qui montrent que nous sommes parcelles de ce vivant universel sur cette planète. Francis Allais, l'autre jour, faisait une conférence et à un moment donné, on parlait forêt, on parlait des trucs comme ça, il dit « Arrêtez ! Et la beauté dans tout ça ! Et la beauté dans tout ça !»
Grand merci, cher François, et à très bientôt.
Merci, très cher Denis.
Pas du tout un bisounours, mais il le disait tout à fait justement, c'est-à-dire que l'optimisme, on va dire, est aussi donc c'est aussi une volonté, voilà. Donc c'est ça qu'il nous disait. L'espoir est aussi nous. Alors on le sait très bien, c'est une course contre la montre aujourd'hui entre la terre et la mer qui sont au pillage et les possibilités qui sont là aussi si on souhaite calmer le jeu et refroidir un petit peu la machine. Cet ouvrage, il est très très bien. Il s'appelle donc Au nom des requins. C'est chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Et donc c'est cette relation avec ces animaux qui sont là très légèrement depuis 400 millions d'années sur terre et sur mer, enfin plutôt dans les mers, qui sont là, et donc cette rencontre, cet homme donc qui est capable de nous donner donc cette beauté en partage, qui est François Sarano avec cet ouvrage Au nom donc des requins. Dans quelques instants, on va poursuivre un autre voyage. Ça va être le même, ça va être aussi la mer, mais avec les algues marines.
Il y a des cœurs au fond de l'océan. Il y a l'erreur qu'on fait depuis longtemps, de croire que les baleines ne pleurent.
Jolie chanson écologique et aussi marine de pommes. Alors celle-là, donc, c'est Thierry Dupin qui l'a dénichée avec Xavier Pessugia dans l'album À perte de vue. C'est pas celle qui passe régulièrement, mais donc elle a tout son sens dans cette émission.
Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la salade verte, ça peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune.
CO2, mon amour.
La salade verte, c'est le mystère.
Sur France Inter.
Oui, ben ça, Jean Carmet, on ne s'en lasse pas. Alors, les fleurs de la Saint-Valentin bombardées de pesticides qui ont fait 8000 km en avion, non. Des fleurs d'ici, oui, avec des circuits courts, d'accord. Mais alors, plus original, l'aquarium tropical de Paris à la Porte Dorée vous offre, sans les cueillir, un bouquet de jolies algues marines. Très belle expo en ce moment, donc qui va durer. Donc, à l'aquarium tropical, belle expo, donc claire, didactique, sur nos amis les algues, dont la chevelure s'agite avec les courants. Alors, Lynn Le Gall est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, avec qui nous faisons d'ailleurs Bestiole, hein, un podcast bestiolement génial, qui tire le portrait aux animaux. Donc, Lynn Le Gall, suivez-nous. Et qu'est-ce que l'on dit ? Eh ben, on dit, oh la belle verte, oh la belle brune, oh la belle rouge. Sans elles, les algues marines, on n'existerait pas. La vie n'existerait pas et l'affaire ne date pas d'hier.
Alors, on a des algues très, très anciennes. La photosynthèse est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, c'est-à-dire presque à l'origine de la vie. Très vite, cette photosynthèse s'est mise en place. Après, les grandes algues marines sont plus récentes. On en a quand même qui ont plus d'un milliard d'années. Les algues rouges, on va trouver des fossiles au Canada qui ont plus de 1,2 milliard d'années. Donc, elles sont très anciennes. Et puis, on a des algues brunes qui, elles, sont plus récentes.
Et donc vous avez réussi à ramener, on va dire, toutes ces algues donc ici, dans cette exposition. Et on va les remercier tout de suite parce que notre oxygène vient en partie, ça vient de la Terre, mais ça vient aussi de ces algues.
Ces algues vont faire la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles vont capter le CO2 présent dans l'air qui va se dissoudre dans l'eau de mer et elles vont le transformer en sucre, en protéines, etc., donc en carbone organique. Donc elles vont piéger le carbone que l'on brûle et qui le CO2 qui est en train d'augmenter dans l'atmosphère va être piégé en bonne partie par ces algues marines.
Alors on va parler de forêt de kelp.
Absolument, les Anglais utilisent beaucoup le terme kelp, on n'a pas exactement l'appareil en français, on va plutôt dire des laminaires. Ce sont des grandes algues qui vont former de vraies forêts, elles ont des stipes qui ressemblent à des troncs et une canopée. Qui va épouser le mouvement, ouais. Voilà, le mouvement des vagues et les courants.
Et puis on a nos bancs de merle. Alors là, ça s'écrit M-A-E-R-L.
C'est exact, avec un tréma sur le E.
C'est breton ?
Absolument.
Eh ben oui. Et c'est quoi la différence ? C'est la même chose ou pas ? Donc,
Alors, le merle a une grande particularité, c'est que ce sont des algues calcifiées. On dirait des petits cailloux. C'est ce qu'on appelle des corallines. Corail est la même racine que le corail. Et en fait, pendant très longtemps, on les a même pris pour des animaux. On ne savait pas trop ce que c'était. Et ce sont des algues. Elles font la photosynthèse, des algues rouges. Et elles vont s'accumuler au cours des années, on va avoir des bancs qui vont pouvoir faire plusieurs dizaines de mètres dans certains endroits. Et c'est des vrais puits de carbone à la surface de la Terre.
Alors on les voit évoluer et si je suis un animal, eh bien je suis ravi de trouver ces algues parce que c'est là que je vais aller me planquer, me reproduire, me nourrir.
Les algues constituent un habitat pour beaucoup d'organismes animaux et même d'autres algues. On a des algues qui vont pousser sur des algues et elles vont abriter beaucoup de larves, de poissons notamment, de crustacés, de mollusques. Et un certain nombre d'animaux vont se nourrir directement de ces algues ou plutôt se nourrir de ces algues en décomposition. Donc tous les détritivores vont manger les algues, pas directement, mais une fois qu'elles viennent dans la matière organique.
Alors, ce qui est formidable dans cette expo, c'est que là, vraiment, enfin, j'allais dire, on réhabilite les algues. C'est peut-être pas forcément le bon mot, mais je veux dire que les gens, quand ils pensent aux algues, alors évidemment, on pense à la décomposition, donc au soufre, lorsque l'on est parfois dans certaines baies de Bretagne, où ça fait évidemment beaucoup de casse. Mais non, pour rappeler quand même qu'au départ, ces algues-là, j'ai presque dire que on vient de ces algues, parce qu'elles sont au début de la vie, quoi.
En tout cas, dans un écosystème qui fonctionne bien, les algues servent et de gîte et de couvert pour tout un nombre d'organismes. Et si les algues venaient à disparaître, c'est toute une chaîne de l'écosystème qui viendrait à disparaître en cascade.
Donc, les pressions et les ennemis, ça va être les encres diverses et variées, donc de gens qui, pendant l'été, se foutent ou pas d'ailleurs de ce qu'il y a sous la mer. Donc, on va les accrocher.
En fait, je crois que le principal ennemi des algues, c'est le réchauffement climatique. Et elles sont vraiment impactées et par les vagues de chaleur. On a des canicules sous-marines, comme on a des canicules sur Terre. Et puis, on a une élévation plus générale, graduelle, de la température de l'eau. Et il se trouve, notamment, nos grandes forêts de laminaires font leur reproduction jusqu'à une certaine température. Et au-delà de cette température, elles ne se reproduisent plus. Et on est en train d'atteindre cette température à l'heure actuelle.
Pour essayer de faire comprendre cela aux gens, il faut les ramener à leur quotidien. C'est ce que vous avez voulu faire donc ici. Lorsque l'on rentre dans l'expo, on rentre dans une cuisine, dans une salle de bain, et là on se dit « Ah tiens, nourriture cosmétique ?»
En fait, on utilise des algues tous les jours, mais sans le savoir. On en mange beaucoup. Alors, évidemment, quand on mange des sushis, on sait que la petite pellicule noire qui entoure les sushis, ce sont des algues. Mais en fait, on en a dans beaucoup de plats préparés. C'est un épaississant, un gélifiant. Donc, si vous mangez des plats cuisinés, vous mangez assurément des algues. Pareil, dans la crème glacée, les crèmes dessert, c'est souvent un additif, le E407, qui vient donner ce côté onctueux aux crèmes glacées. Donc, on en mange beaucoup plus souvent qu'on ne le croit.
La mer s'est retirée sur la plage de Saint-Goustan. Valérie a quelques heures seulement pour parcourir l'estran et faire découvrir les algues, ces légumes de la mer, invisibles à marée haute.
Gratter l'opia turuturu. Ah, le raccourci, c'est turlututu, si vous voulez.
Sur la façade atlantique, il y a au moins 500 espèces d'algues, dont une vingtaine sont comestibles. Une nourriture que les Asiatiques connaissent bien, mais plutôt méconnue en France. Les reconnaître, c'est bien, mais pour les apprécier, il faut les cuisiner. Ce jour-là, ce sera coque et tartare aux algues fraîches.
J'aime beaucoup parce que c'est frais. On sait qu'il y a plein de vitamines. Déjà, on est en bord de la mer. Ça sent l'iode, ça sent la mer.
Ça m'intéresse, vraiment. Je ne verrai plus les algues comme je les voyais avant.
Et puis, on va aussi l'utiliser pour se laver les dents. La pâte de dentifrice est souvent composée d'algues. Il y a un certain nombre de médicaments, notamment des anticoagulants, qui vont être composés à base d'algues. Donc c'est quand même très utilisé, et dans l'agroalimentaire, et dans la cosmétique. Et on l'utilise aussi au jardin. Ça va être un amendement spectaculaire pour faire pousser les plantes. C'est vraiment l'ami du jardinier.
Si on commence à dire tout ça, est-ce qu'on n'en prend pas plus que nécessaire ?
C'est un véritable enjeu. En fait, les cultures d'algues sont maîtrisées que pour une dizaine d'espèces, sachant qu'on a beaucoup plus d'espèces que ça d'algues. Il y a beaucoup d'exploitations qui se font dans les champs naturels. Et ces champs, ils sont extrêmement limités. Je vous ai dit, ils ne poussent qu'entre la surface et une centaine de mètres de fond, uniquement quand il y a du fond rocheux. Donc vraiment à la surface de la Terre, les endroits où on va trouver des grandes algues marines, ce n'est vraiment qu'un fil le long des continents. Ce n'est pas du tout sur toute la surface des océans qu'on va trouver des algues.
Et on est capable de rebooter, d'aller fabriquer des algues ou pas, nous, les humains ?
On maîtrise la culture d'une dizaine d'espèces d'algues, donc oui, et on souhaiterait la développer plus largement. Après, ça se fait souvent au détriment des communautés sauvages.
75% de la production de matière organique vient de là.
Les grandes forêts d'algues ont une production qui est supérieure à celle des grandes forêts tropicales. Alors c'est très réduit à l'échelle de la planète, mais ce sont des écosystèmes extrêmement productifs, donc ils sont cruciaux à l'échelle locale pour la survie de tous les organismes.
Alors ces algues, bon, évidemment, ce sont des indicateurs du climat de première bourre, comme on dit, parce que ça réagit vite, quoi, maintenant.
Ça réagit très vite et on les utilise comme des espèces sentinelles. On les suit à travers le temps pour regarder ce qu'elles peuvent nous indiquer de l'évolution de l'environnement dans lequel on vit.
qui est épatant, c'est tout simplement la beauté. Alors c'est nous qui avons inventé ce mot de beauté, mais quand on regarde ça avec nos yeux d'humain, on se dit, mais nom de Dieu, mais cette diversité biologique, ce travail que fait la nature, on serait incapable de le faire.
C'est, je crois, le...
Regardez, là, c'est en train de se balancer, on a toutes les couleurs, là.
C'est un véritable camaïeu de rouge, de vert, de brun. On a une diversité de couleurs, de formes qui est spectaculaire. Et vraiment, je pense que c'est le meilleur moyen de donner à voir les algues et de les faire aimer. C'est de montrer à quel point elles peuvent être belles.
Vous avez des chouchous, vous, ou pas là? Non, vous aimez toutes, parce que de toute façon, elles sont imbriquées les unes avec les autres.
Exactement, mais mes chouchoutes, ce sont les algues rouges, parce que c'est le groupe le plus diversifié. Et donc moi, je m'intéresse à essayer de comprendre pourquoi on a autant d'espèces et comment des espèces très proches vivent entre elles, au sein de communautés.
Sarano, Lynn Le Gall, donc tout ceci faisait sens, on veut cette exposition vraiment à voir en famille. D'abord, l'aquarium, il est génial quand même, l'aquarium tropical. Merci aussi à Gabriel Picot qui nous a accueillis dans ce merveilleux palais. Donc, exposition sur les algues marines. La semaine prochaine, ah ouh là, ça va être autre chose, je vais vous parler d'un illustre inconnu. Ouais, vous le connaissez très bien, c'est le cygne. Ah ouais. Alors, vous avez une exposition là aussi sur le lac Léman. Alors, que serait le Léman sans le cygne, hein? Ce serait pas pareil. Il y a toute une histoire. J'étais jeudi en Suisse. Je vous ai pas rapporté un cygne, non pas du tout, mais juste un reportage. Ce sera la semaine prochaine. On va découvrir des tas de trucs. Merci à Claire Levasseur qui a donc mixé ce reportage, à Camille Blanès, à Xavier Pessulgia qui réalise l'émission. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter donc le meilleur. Allez, Anne Gouzon aussi qui nourrit les sites, hein, de CO2, mon amour. Je vous souhaite le meilleur donc en cette fin de dimanche et que tout aille bien pour vous. Et si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas. Alors vous avez les podcasts, vous avez ceux de Bestiole, vous avez ceux de L'Atulu, mon petit loup, que l'on retrouve d'ailleurs chez Dorothée Barba. Donc ça, c'est le samedi à 15h50 dans son émission Barbatruc. Et puis donc des portraits d'animaux et puis Twitter et Instagram. Et ça, vous en avez l'habitude.